un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 20 avril 2026. Et je voudrais aujourd'hui, dans cette chronique, vous parler de la liberté de s'associer. Auparavant, deux petites choses. Premièrement, l'annonce, mais ça je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais c'est un rappel, pour la réunion débat avec la Libre Pensée qui se tiendra mercredi soir, donc mercredi 22 avril, de 17h30 à 20h, à la Maison des Associations de Périgueux, c'est-à-dire cours Fénelon, au siège donc de la Maison des Associations de Périgueux, sur le sujet « Impérialisme et démocratie en Afghanistan ». Et je rappelle un petit peu le sous-titre. Après que l'armée US a quitté l'Afghanistan, les talibans reprennent le pouvoir en 2021. La présence américaine garantissait-elle démocratie et en particulier la liberté des femmes? En analysant l'histoire de ce pays, nous essaierons de comprendre comment on en est arrivé là et où va la guerre au Moyen-Orient et ailleurs. Et à la fin de cette réunion débat, une communication sera faite sur la question donc de la fin du financement public de l'école privée. Voilà. Alors ça, c'était le premier point. Second point, je reviens à travers une déclaration de la CGT de l'INRAE sur un sujet que j'ai évoqué dans de précédentes chroniques, par exemple avec la question du port d'un vêtement porté par une conseillère municipale, je crois que c'était dans l'Est de la France, qui avait posé problème et où on l'avait expliqué que chacun s'habille comme il veut dans le cadre d'un conseil municipal. Ce n'est pas un endroit où siège la neutralité. Le principe d'ailleurs de chaque élu est qu'il a été élu sur une orientation et donc ce n'est pas la neutralité au sein du conseil municipal, des débats du conseil municipal. Voilà. Alors, à l'INRAE, ça va encore un peu plus loin. Et voilà ce que dit ce texte de la CGT. Au nom d'une nouvelle, entre guillemets, interprétation de la laïcité, s'est développée dans plusieurs centres INRAE une stigmatisation de collègues, uniquement des femmes, à qui la hiérarchie reproche une tenue qui serait censée mettre en avant une identité religieuse musulmane. Or, dans les différentes unités concernées, cela ne posait aucun problème jusqu'à présent, le plus souvent toute connaissance de cause et avec l'aval des directions locales de l'Institut. Le zèle déployé par la direction générale pour traquer de possibles signes religieux à caractère musulman est abasourdissant. Ce zèle s'échine à surveiller s'il n'y a pas un centimètre de trop de foulard sur la tête, voire si une jupe trop ample pourrait ressembler à une abaya, rendue célèbre par un ancien ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre Gabriel Attal. Pourquoi alors ne pas aussi traquer les croix autour du cou et au revers de vestes pourtant nombreuses à être portées, y compris au niveau de la hiérarchie? Pourquoi organiser des formations INRAE à l'hôtellerie du Bon Pasteur à Angers, tenue par la congrégation de Notre-Dame du Bon Pasteur, cadre laïque s'il en est, entre guillemets, bien évidemment, le mot laïque. Ce qui s'apparente à une police du vêtement n'est pas pratiqué à notre connaissance dans les autres organismes de recherche. Pourquoi un tel zèle à l'INRAE alors que cela ne peut que générer des conséquences hautement déplorables pour l'Institut, sa réputation internationale et la recherche en général? D'ores et déjà, on assiste à des départs de collègues n'acceptant pas d'être stigmatisés, à des fractures dans des collectifs de l'Institut et à des refus de jeunes à postuler pour être recrutés. La direction de l'Institut entend-elle ainsi se couper de jeunes femmes talentueuses correspondant à une part importante de la population mondiale? Pourtant, le 23 juin 2024, le PDG de l'INRAE, Philippe Mauguin, avait signé, à juste titre selon nous, avec les autres PDG des autres instituts de recherche, une tribune publiée par le journal Le Monde affirmant, et nous citons, « Nous souhaitons réaffirmer publiquement les valeurs qui portent au quotidien notre engagement et forment le socle de la démarche scientifique. » L'ouverture au monde et la libre circulation des individus, le libre échange des connaissances et de la pensée, la vérité, la transparence, la rigueur et l'exigence, et encore la tolérance, l'éthique et l'humanisme. Et un peu plus loin, cette citation se poursuit. Cette démarche qui accélère la science suppose aussi une libre circulation des chercheurs d'un pays à l'autre pour passer du temps dans un laboratoire étranger auprès d'une équipe éloignée, unir des forces, former des étudiants dans les équipes respectives, susciter des opportunités de réseau et ainsi permettre un brassage de chercheurs et d'étudiants de toutes origines, de toutes religions, de toutes opinions. Et un peu plus loin encore, une science qui ne circule pas, qui ne se transmet pas, est une science morte. Les connaissances scientifiques n'ont pas de frontières, elles ne laissent aucune place à la xénophobie, au racisme et à l'antisémitisme ou à l'exclusion de quiconque en raison de son appartenance à un groupe. Jusqu'à quand le PDG va donc-t-il laisser faire ces pratiques d'exclusion qui ne peuvent que mettre le feu aux poudres dans les unités de l'INRAE où il n'y avait strictement aucun problème jusque-là? Non à l'instrumentalisation de la laïcité pour stigmatiser et diviser. Cette situation se développe malheureusement dans un contexte politique national inquiétant, avec le racisme décomplexé véhiculé par certains médias, comme en témoignent les attaques révoltantes faites à l'encontre du nouveau maire de Saint-Denis. Arrive également à l'Assemblée nationale le projet de loi Yadan. Ce texte donc a été écrit avant les derniers éléments concernant donc ce projet de loi qui a donc été retiré au dernier moment par la majorité, le groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi Yadan visant à criminaliser toute critique de l'État israélien et de sa politique en instrumentalisant la lutte contre l'antisémitisme et bientôt les projets de loi à caractère islamophobe déposés par le Rassemblement national. Comme à chaque fois dans l'histoire, l'extrême droite cherche des boucs émissaires pour diviser les travailleurs et les travailleuses. C'est un danger mortel, à un moment où l'unité du monde du travail n'a jamais été aussi nécessaire pour faire face aux attaques contre nos conquêtes sociales. La haine des uns attise celle des autres et nuit au combat commun que doivent mener toutes et tous les salariés en faveur de leurs droits et pour l'obtention des biens communs. Pour la CGT INRAE, la laïcité, c'est avant tout une loi de liberté et de bien vivre ensemble et l'affirmation de la séparation de l'État avec les églises de toutes sortes. La loi de 1905 proclame ainsi « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » pour ajouter aussitôt que la République assure la liberté de conscience, incluant la liberté religieuse, citation de la loi de 1905, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions imposées par l'ordre public. Fin de citation. La loi de 1905 distinguait aussi nettement vêtements et comportements, seuls ce dernier pouvant relever du prosélytisme. Si certains considèrent aujourd'hui que l'un ou l'autre relève de la propagande religieuse, comment peut-on, en l'absence de comportement prosélyte, attribue une valeur religieuse à une coiffure, un vêtement, une barbe ou un comportement alimentaire? Ce qui rend la situation encore plus inacceptable, c'est que les collègues injustement visés sont des femmes avec une essentialisation à leur endroit. La diversité est une recherche, pas une menace. Elle traverse la société tout entière et se reflète naturellement au sein même de la communauté des agents de l'INRAE. Chercher à en stigmatiser une partie, ce n'est pas défendre la laïcité, c'est la dénaturer. La véritable laïcité protège la liberté de conscience et garantit que chacune et chacun puisse travailler et vivre dans le respect de ses convictions dès lors qu'elles ne sont imposées à personne. Voilà, c'était donc cette déclaration de la CGT qui me semblait très intéressante à lire en complément donc de ces questions que j'avais abordées dans de précédentes chroniques. Et j'en arrive donc au principal sujet du jour, du moins dans la part de temps que j'avais y consacré. C'est l'introduction, la préface plus exactement, d'un livre que viennent de publier Jean-Michel Ducomte et Jean-Marc Roirand, « La liberté de s'associer ». Donc, au comptoir des idées, l'édition Privat. C'est une préface qui a été rédigée par notre camarade Christian Echène, que je cite très souvent et dont je lis très très souvent donc, des productions littéraires. Pour la défense de la liberté d'association, on peut dissoudre des organisations, on ne peut dissoudre des idées qui ont fait naître ces organisations. Le constat est clair. Depuis le décret-loi du 10 janvier 1936, entré dans l'histoire sous l'appellation « contre les ligues factieuses ». En 90 ans, donc, il y a eu 154 associations dissoutes. Parmi celles-ci, sous l'ère d'Emmanuel Macron, en 9 années, donc, il y en a eu 47. C'est-à-dire qu'en un dixième du temps passé, le pouvoir macroniste en a dissous le tiers, dont une grande majorité au nom de la loi du 24 août 2021, dite « séparatisme ». Pour les associations, a-t-on connu un pouvoir plus répressif ? La loi du 25 mai, dite loi « sécurité globale », avait pour objectif de réprimer les individus. Celle de la loi « séparatisme » en a été le corollaire. Son objectif est de réprimer les consciences et les pensées. Nous avons bien affaire à un pouvoir totalitaire, de plus en plus totalitaire. Qui veut, comme l'Église cléricale par nature, contrôler et asservir en permanence les corps et les consciences. Ce pouvoir se liquéfie devant le rejet du peuple qui va croissant, au point que cette entité politique, entre guillemets, n'a pas été capable de constituer la moindre forme de représentation aux élections municipales qui, sous une forme abâtardie du fait des institutions bonapartistes de la Ve République, restait une grande rencontre électorale de débats d'opinion. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'abstention en est le grand témoin, ce qui montre le rejet massif du pouvoir macroniste. Liberté, liberté, toutes les libertés. Il ne peut y avoir de liberté de conscience sans liberté des consciences et sans liberté d'expression et d'association. Comme le dit très bien Benoît Steckenburger dans son article, dans ce numéro d'argument, donc, puisque c'est le titre de cette brochure dont je viens de parler, « La pensée n'est jamais suspendue en l'air. Elle a une forme, un contexte, un contenu, une expression, une représentation matérielle par les organisations. C'est cela qui est remis en cause aujourd'hui profondément par les lois séparatisme et sécurité globale. C'est bien la liberté de s'associer bafouée. Dans leur excellent ouvrage, qui porte justement ce nom, « La liberté de s'associer », Jean-Michel Ducomte et Jean-Marc Roirand de la Ligue de l'enseignement expliquent en détail toute l'histoire de cette liberté, ses avancées, ses reculs, ses combats. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de cet ouvrage pédagogique et instructif, c'est une vraie mine d'informations. Un basculement dans l'histoire, et particulièrement dans celle de la répression et de la réaction, ne se fait jamais d'un seul coup, il n'y a jamais de fiat lux. C'est un long processus qui part du passé, est nourri par le présent et va vers l'avenir. Il y a une accumulation primitive de ce capital, et quand la quantité devient qualité, le basculement s'opère. Ce n'était pas mieux avant, c'était différent. Le conflit d'intérêts, autre nom de la lutte des classes, maintient, accélère, restreint ces processus selon les moments et les forces qui s'imposent ou non. La nécessité de la liberté d'association tient de la liberté politique, de la liberté de réunion, mais aussi de pensée et de conviction. Une liberté juridique autorisant la constitution aux côtés des individus de personnes morales et une liberté économique favorisant la défense d'intérêts, mais aussi contribuant à assurer leur gestion. D'autant, comme le souligne Régis Debray dans le moment Fraternité, qu'une vie à la première personne est une vie mutilée, qu'une organisation sociale vivante n'existe pas sans la reconnaissance des appartenances naturelles ou construites, stables ou réversibles qui la travaillent. Fin de citation. La liberté d'association a une histoire propre, qui est liée à l'histoire sociale et politique. La Révolution française, qui a voulu édifier la liberté, notamment celle des individus citoyens libres, s'est heurtée à la confrontation des intérêts. Comment concilier celle-ci avec la liberté de se regrouper ? On connaît les décrets d'Allard, la loi Le Chapelier, qui ne pourront résister durablement aux avancées économiques et notamment de la constitution de la classe ouvrière en soi et pour soi. Il y a une action démocratique commune entre la liberté du droit de grève, 1864, de celle de constituer des syndicats, 1884, des partis et des associations, 1901, contre l'oppression individuelle et collective des congrégations religieuses, 1904, et tout cela va culminer dans la proclamation institutionnelle de la liberté de conscience, 1905, qui est la, entre guillemets, sanctification de la liberté d'expression et d'association. Il faudra donc à la conscience humaine, c'est une expression de Victor Hugo, combattre en permanence le trône, le pouvoir et l'autel. Dans ce combat, c'est constituer une conscience collective qui nourrit tous les aspects de la démocratie. Il ne saurait y avoir de véritable démocratie sans liberté de conscience, d'expression, donc de presse, de réunion et d'association. Tout est lié. Et quand une de ces libertés est menacée et mise en péril, comme aujourd'hui par la loi séparatiste, Ce sont toutes les libertés et la démocratie dans son essence même et sa réalité qui est menacée. L'association, c'est le contrat. La liberté de s'associer, c'est la liberté de contracter. Citation. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Fin de citation, c'est l'article 1er de la loi sur les associations du 1er juillet 1901. C'est une loi fondamentale de la liberté et des libertés. Cette liberté de contracter explique la grande diversité des formes d'associations. Syndicats, associations 1901, partis, mutuelles, coopératives, cultuelles, fondations, etc., etc. La loi séparatiste remet en cause cette diversité féconde. Elle tend à édifier, sous la tutelle du pouvoir, un modèle unique, obéissant aux mêmes critères décidés par le pouvoir, mettant en action des règles décidées par le pouvoir, œuvrant à une idéologie d'État totalitaire par nature et par essence. À terme, toutes les associations, et non plus seulement celles, entre guillemets, reconnues d'utilité publique, seront contrôlées à outrance avec l'épée de Damoclès sur leur tête. Leur dissolution. Cette menace est analysée et décortiquée dans ce numéro de notre collection Arguments. Donc, je reviendrai sur ce numéro d'Arguments avec notamment le texte donc, de Benoît Schneckenberger, dont Christian Eichen a parlé un petit peu plus haut dans le texte que je suis en train de vous lire. Donc, cette menace est analysée et décortiquée dans ce numéro de notre collection Arguments afin de donner à tous les moyens de compréhension pour leur permettre de combattre et pour se défendre. Expliquer pour comprendre, comprendre pour agir est l'idée centrale de notre collection Arguments. Nous en avons écrit 33 chiffres hautement symboliques à ce jour. Nous en publierons la liste donc à la fin de ce texte. Et bon, on le publiera sur nos sites, bien évidemment. La loi séparatiste de dissolution permanente s'appuie sur une longue tradition réactionnaire de répression. Le décret-loi du 12 avril 1939, qui impose une autorisation préalable pour les associations étrangères, autorisation qui peut être retirée à tout moment. Une éclaircie a eu lieu en 1981, mais cela revient aujourd'hui au nom de la lutte contre le séparatisme. La loi du 26 septembre 1939, qui interdit les associations communistes du fait du pacte germano-soviétique et abroge les élections des députés du PCF, 675 associations seront dissoutes et leurs biens transférés au budget de la défense nationale. C'est ce que certains réactionnaires fascistes sionistes réclament aujourd'hui contre la France insoumise. L'idée pourrait donc resservir aujourd'hui. La loi du 11 juillet 1941 du régime de Vichy, qui interdit et dissout toutes les associations, citation, dont les buts réels, l'activité et les agissements s'avèrent contraires à l'intérêt général du pays. On croirait lire que la loi séparatiste à propos des musulmans et de leurs associations qui obéiraient, entre guillemets, à des injonctions étrangères. La répression va s'amplifier encore plus. Laurent Nunez annonce une nouvelle loi sur le séparatisme permettant de dissoudre certaines structures. Un nouveau projet de loi de lutte contre le séparatisme verra bien le jour. Citation. On a fermé énormément de structures associatives qui étaient dans le séparatisme islamiste. On a fermé aussi les lieux de culte. On continue à le faire. Il y a énormément de contrôles d'accueil collectif de mineurs, mais il y a un certain nombre de structures que l'on ne peut pas atteindre, a déclaré donc Laurent Nunez sur BFM TV le vendredi 3 avril dernier. On a un sujet sur le contrôle de l'accueil collectif des mineurs. Il faut qu'on puisse tous les contrôler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, a également dit le ministre de l'Intérieur. On a aussi un sujet sur les publications pour les plus jeunes. Selon le locataire de la place Beauvau, ce texte viendra compléter la précédente loi de 2021 avec de nouvelles dispositions permettant, par exemple, de dissoudre certaines structures. Source de ces informations, France Info avec l'AFP du 3 avril 2026. La subsidiarité, complément de la répression. L'idée générale de tous les pouvoirs a toujours été de faire de la puissance du mouvement associatif un relais de ses actions. Quand on examine sa constitution, source, le livre cité dont les références sont en bas donc de cette préface, donc le livre de Jean-Michel Ducomte et Jean-Marc Roiran, on comprend donc vite pourquoi. Un Français sur deux est membre d'une ou plusieurs associations. 3 Français sur 4 sont liés d'une manière ou d'une autre à une association. Les associations bénéficient du concours de 18 millions de bénévoles. Les associations emploient 1,9 million de salariés. Le budget, en 2010, cumulé du secteur associatif, s'élève à plus de 59 milliards d'euros. En 2025, il y a plus de 2 millions d'associations en France. 56% des associations appartiennent à un réseau. Entre 2000 et 2010, il s'est constitué en moyenne 67 000 associations chaque année. L'économie sociale et solidaire, qui s'inscrit dans la démarche associative, emploie 10% du salariat en France. Il est clair que, comme pour le budget de la sécurité sociale, les associations sont sous la menace permanente d'un « hold-up gouvernemental », selon l'expression forte de Marc Blondel au moment du plan Juppé de 1995. Quel pouvoir ! Ne lorgnerez pas sur l'argent et les moyens des associations pour combler ses problèmes de trésorerie et de déficit et en faire des relais de sa politique. Le pouvoir macroniste, comme tous les pouvoirs successifs, veulent faire des associations des relais et des subsidiaires de leur politique. Considérant qu'elles mènent des actions d'intérêt général qui supplaient aux carences de l'État, comme les associations humanitaires et les Restos du Cœur, par exemple, l'État capitaliste veut les encadrer par plus de 30 habilitations de reconnaissance et d'agrément pour, entre guillemets, justifier les subventions accordées. De tout temps aussi, des « doctrines », entre guillemets, politiques, traduisant des besoins du capitalisme ont été élaborées. S'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église et sur le christianisme social, et dans leur continuité, les radicaux bourgeois ont inventé le solidarisme, troisième voie, eux aussi avec les fascistes et le corporatisme, entre le socialisme et le capitalisme, dont le héros était Léon Bourgeois. L'idée était que chaque individu devait quelque chose à la collectivité et devait le lui rendre sous une forme ou sous une autre toute sa vie durant. Enchaîné à la machine, chantait le mouvement ouvrier révolutionnaire, enchaîné à la vie de l'État, au capital, à l'Église. C'était la chaîne permanente qui liait le prolétaire. Et si, selon Karl Marx, les prolétaires n'avaient que leur chaîne à perdre, quelle chaîne et quel boulet ? Si Marx en appelait à l'association permanente et organisée des travailleurs pour briser la vieille machine de l'État et de l'oppression économique, Proudhon déclarait quant à lui « L'association est par nature stérile, nuisible même, car elle est une entrave à la liberté du travailleur. » Et l'Union européenne intervint en faveur de la doctrine sociale de l'Église catholique. Bien entendu, la question associative ne saurait échapper à l'appétit féroce de l'Union européenne, née de copulations réactionnaires de la banque, du coffre-fort, du militarisme et du Vatican. Paradoxe et paradoxe, s'il en fut, la subsidiarité fait l'apologie du « bas », entre guillemets, corps de rang inférieur, contre le « haut », corps supérieur des États. Mais elle ne peut que s'imposer par le « haut », les gouvernements et l'Union européenne, ce qui en soi rend déjà suspect le projet dont l'apparence serait de favoriser les « bas ». Ce principe a été défini par Pie XI dans son encyclique « Quadragesimo anno », définissant le principe de subsidiarité. Citation « que l'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle seule peut les remplir, diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportement, les circonstances ou la nécessité l'exigent. » Fin de citation. L'Union européenne, qui s'occupe de tout, a tenté vainement pendant longtemps d'instituer un statut d'association européenne qui s'est heurté aux intérêts contradictoires des différentes parties en présence en fonction des intérêts en jeu. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle a pu réellement avancer après de longs et pénibles efforts dans cette voie en adoptant une résolution du Parlement européen qu'il faudra transcrire dans le droit européen. C'est loin d'être gagné, car le Parlement imagine et phosphore, mais c'est la Commission européenne, composée des représentants des gouvernements en Europe, qui décide. Voici quelques extraits de cette résolution adoptée, mais non encore, à ma connaissance, dit Christian Hachène, transcrite dans le droit européen. Résolution du Parlement européen du 17 février 2022, contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières. Considérant que La démocratie européenne est tributaire de la société civile et d'organisations représentatives en mesure de fonctionner librement et par-delà les frontières. Que le rôle essentiel de la société civile et des organisations représentatives dans la contribution à la démocratie est considéré comme une valeur fondamentale de l'Union, comme le reconnaît notamment l'article 11 du traité sur l'Union européenne, et exige l'existence d'un dialogue ouvert, transparent et structuré. Autre point, souligne que le cadre juridique actuel à l'échelle de l'Union et à l'échelle nationale est insuffisant pour créer et favoriser une société civile pan-européenne forte dont l'existence est nécessaire à la démocratie, reconnaît par conséquent la nécessité de mettre en place une nouvelle forme juridique, à savoir celle d'association européenne, y compris des règles relatives à son instauration, à sa transparence, à son obligation de rendre compte et à sa gouvernance. Donc on reprend là le texte de Christian Eschenn. On retrouve là le fameux article 11 du traité européen, rejeté puis imposé au peuple français, qui promeut un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile, c'est une citation, ce qui permet à tous les subsidiaires mercantis, amateurs de fonds publics, de proposer leurs services. Il y a un autre article qui traite spécifiquement des églises. À la question « Pourquoi deux articles différents ?», le docteur Wininger, chargé des cultes à l'Union européenne, avait répondu à une délégation européenne de la libre pensée conduite par Marc Blondel, citation, « parce que la société civile est l'immanence, entre parenthèses, sa nature propre que l'on ne peut dépasser, et que les églises et certaines associations philosophiques étaient la transcendance, c'est-à-dire qui vous élève au-dessus, en clair, d'un côté les gueux, de l'autre les aristocrates. » Quand je lui demandais où il classait la libre pensée dans ce distinguo, bien embarrassé après un long moment de solitude, il me répondit un peu contrit dans la transcendance, ce qui a indubitablement changé notre vie alors. Les libres penseurs présents à cette entrevue garderont longtemps un souvenir ému de cette réponse. Être dans la transcendance, c'est pas donné à tout le monde. On sait le poids croissant des ONG, instruments privilégiés mis en avant par la subsidiarité. Il y en a 38 000 recensés dans les institutions internationales, mais il faut bien les distinguer. Il y a les ONG intervenantes, qui se substituent aux États et aux services publics pour des missions d'intérêt général, en contrepartie de défraiements sonnants et trébuchants. Rien n'est gratuit dans ce bon monde. Il y a aussi les plus nombreuses, les ONG représentatives, qui n'ont comme seule fonction, comme la libre pensée à l'OIT ou à l'ONU, que de représenter des opinions ou des intérêts sociaux. Elles ne demandent aucune rétribution pour cela et n'ont souvent que leurs yeux pour pleurer sur la misère du monde. Les auteurs du livre, cités en référence dans cette préface, indiquent qu'il y a aussi des gongos, de fausses ONG, placées sous la tutelle du gouvernement et chargées de défendre leurs intérêts. Là pullulent des ONG religieuses, dont celle du catholicisme, qui ne font pas cela uniquement par esprit de charité, qui pourtant commence toujours par soi-même, comme le dit le dicton populaire. Et donc, je vais en arrêter là pour ce texte que je n'ai pas terminé. Le paragraphe suivant est titré « Le rôle des gouvernements envers le mouvement associatif n'est jamais désintéressé ». Et ensuite, donc, il y a une conclusion. Je reprendrai tout ça donc dans une prochaine chronique. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette chronique donc du groupe Fred Zeller. Merci également à Antoine qui a assuré la technique pour cette chronique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, des libres penseurs de Dordogne.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.